Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Où en sommes-nous avec l'arrestation des 49 militaires ivoiriens? C'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Comme vous le savez, l'arrestation de ces militaires ivoiriens continue d'alimenter les discussions. Elle sera d'ailleurs abordée ce mardi 20 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le colonel Abdoulaye Meïga, chef du gouvernement par intérim, prendra part à cette 77e session avec d'autres chefs d'État de la CEDEAO et gouvernement. À quoi devrions-nous nous attendre par rapport à cette rencontre? La contrepartie demandée par le Mali est-elle faisable? Pour en parler, nous avons avec nous quatre invités. La première personne n'est pas encore arrivée sur place. Il s'agit de Bagabini Keïta, politologue. Nous espérons l'avoir d'ici la fin de cette émission. Docteur Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, il est au téléphone. Massiré Diop, journaliste. Nuhum Togo, homme politique. Du président du parti ICR, un soutien de la transition. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nuntoro, la première question sera pour vous. Cela fait à peu près plus de 2 mois que les militaires ivoiriens sont arrêtés au Mali. Quel est votre regard sur cette affaire?
Bon, vous savez que d'abord, ça a été très compliqué le dossier. Nous sommes en train de gérer avec beaucoup de responsabilités pour éviter beaucoup de choses. Mais ce dossier a amené beaucoup de discussions sur le plan national et sur le plan international. Comme vous le savez, au niveau des Nations Unies, le gouvernement malien, à travers le ministre des Affaires étrangères, était obligé d'adresser une lettre, une correspondance aux Nations Unies pour savoir la position des 49. Vous avez remarqué que dès au départ aussi, nous avons eu des problèmes avec le porte-parole de la MINUSMA qui a été renvoyé en République du Mali pour amener les dossiers, parce que lui-même au départ a dit clairement qu'ils étaient au courant, mais finalement, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Il a été renvoyé, il n'a pas pu amener des preuves. La Côte d'Ivoire, dès au départ, il y a eu beaucoup de va-et-vient, de tâtonnements. Mais finalement, les discussions ont continué. Il y a beaucoup de présidents qui ont intervenu sur ce dossier. Il s'agit du président Boiré à travers son ministre des Affaires étrangères, le président Macky Sall, le président guinéen à travers une délégation, le président togolais. Et finalement, le Burkinabé était venu à Bamako pour échanger sur ce dossier-là pour qu'on puisse trouver la solution avec Macky Sall. Alors donc, je pense que ça a un peu évolué. Finalement, il y a eu 3 libérations. Vous avez remarqué que la dernière rencontre à Lomé a amené un peu d'espoir pour la libération des autres, mais dans ces derniers temps, il y a eu des rebondissements parce que la Côte d'Ivoire a reconnu qu'il y a eu des manquements à travers le ministre directeur du cabinet de Alassane. Et il a même dit que pour des bons voisinages, il faut qu'on continue à échanger sur ce dossier et trouver la formule pour que nous puissions gérer avec responsabilité. Mais tout récemment, comme vous l'avez remarqué, il y a eu des revirements sur ce dossier. Le dossier a été judicialisé. Nous pensons que réellement qu'il faut laisser la situation continuer. Et le Mali, concernant les 60 preuves que nous voulons avancer devant les Nations Unies, il me semble que le dossier, les 49 militaires, ils ont des preuves parce qu'ils ont été interrogés par nos services de renseignement, par la justice. Et donc ces documents-là, donc franchement, fait parler beaucoup de choses là-dessus. Et nous pensons que après on verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais il est important d'apaiser la chose parce qu'il y a d'abord les vidomanes qui sont intervenus dans ce dossier, que ce soit des vidomanes maliens, des vidomanes ivoiriens, pour envolumer la situation. Je pense qu'il faut le gérer avec responsabilité.
Il faut gérer la situation avec responsabilité. Vous l'avez tantôt écorché dans votre introduction. 3 femmes ont été libérées parmi les 49 militaires. On pensait que la situation allait laisser décanter, mais on voit encore un durcissement de ton. Ngolo Diarra, quel est votre regard par rapport à ça?
Ce qu'il faut quand même reconnaître d'abord, je ne vais pas rentrer un peu dans l'historique, mais ce qui est important, je vais essayer d'être technique. On constate quand même que c'est devenu un différend qui oppose des sujets originaires du droit international. D'un côté, l'État du Mali et d'autre côté, l'État ivoirien. Alors, le différend, à un niveau conformément au dispositif de la Charte des Nations Unies, notamment chapitre 6, les deux États ont décidé de régler ces différends de façon pacifique. Togo a parlé de cela tout à l'heure, il y a eu la médiation de l'État du Togo. Alors donc le règlement pacifique, en fonction de cela, il y a eu la libération de trois soldats. Mais malgré tout, cette pratique de façon pacifique est en train de montrer ses limites. On voit un peu l'enlisement de la situation. Du côté de l'État du Mali, le dossier s'est déjà judiciarisé parce que le Mali a apporté un certain nombre de preuves au niveau des éléments juridiques au niveau communautaire. Alors la conclusion, c'est que ces militaires sont rentrés de façon illégale dans le territoire malien. Et ce qui fait que les conclusions, c'est quoi pour Bamako? C'est de mercenaires. Et la Côte d'Ivoire, à son niveau, ce sont leurs citoyens qui sont en réalité pris en otage. Donc, les positions s'y radicalisent. Alors, donc, je pense qu'on va y arriver sur là-dessus, que la Côte d'Ivoire essaie d'aller très loin et pour essayer d'écouter la CEDEAO dans cette situation. Et c'est ça, ce que la Côte d'Ivoire peut faire, ce n'est que ça. Essayez d'abord, dans un premier temps, conformément au dispositif de la Charte des Nations Unies, surtout l'article 52, 53, 54, qui donne ou bien qui autorise les organismes régionaux de régler leurs différends avant de recourir à la force. Alors, donc, pour ça, la Côte d'Ivoire, à long terme, risque de saisir l'organe juridique ou bien d'écouter un juge communautaire dans cette situation. Et le juge communautaire, il faut quand même reconnaître qu'il y a un juge communautaire qui s'était prononcé sur la situation qui opposait le Mali au sujet des sanctions. Et la CEDEAO, la Côte d'Ivoire peut décider d'écouter le juge communautaire, la Cour de justice de la CEDEAO. Alors donc, pour trouver réparation. Le Mali, de son côté aussi, au nom de la présomption de licéité des autorités nationales, pourra se défendre. Alors donc, ce qui est quand même important, c'est de travailler pour éviter l'annulement de la situation. Si le règlement pacifique a montré ses limites, on va vers des règlements juridiques. Mais ce qui a écarté, ça c'est le recours à des forces armées.
Vous venez d'écouter N'Golo Diarra. L'affaire a été judiciarisée, la situation s'enlise. Est-ce que nous n'avons pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a un non-dit entre Bamako et Abidjan, Massiré Diop?
Bonsoir à tous. Non dit, je ne pense pas. Je pense que là, tout est clair. Hein. Les positions sont assez tranchées sur la question. Bamako a déjà, je crois, judiciarisé l'affaire. Et on voit que du côté de la Côte d'Ivoire, la voie qui est plutôt privilégiée, c'est la voie diplomatique. Donc, le règlement pacifique, il y a encore de l'espoir que ça se règle. C'est certainement que toutes les voies diplomatiques n'ont pas encore été épuisées. Mais quand même, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a aussi reconnu que ça a été une erreur, l'entrée de ces soldats par cette voie-là.
Est-ce que si cette reconnaissance avait été faite plus tôt, on allait arriver là? Parce que apparemment, c'est ce que Bamako demandait dès le début.
Certainement, on aurait pu éviter d'en arriver là. Hein. Si la Côte d'Ivoire avait fait ce qu'il fallait en reconnaissant cette erreur depuis le départ, certainement que aujourd'hui la situation serait décantée. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que nous sommes en face d'un problème qui est devenu une affaire d'État. Et une affaire d'État, c'est normal que tout le monde puisse se mobiliser pour essayer un peu de sauver la face, parce qu'il n'est pas bon que ça aille plus loin jusqu'à, par exemple, ne pas exclure une intervention militaire ou bien le recours à la force. Tout ça, ce sont aussi des éventualités. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, parce qu'on voit que des deux côtés, certains sont en train d'enflammer, de vouloir envenimer le problème et de vouloir l'amener à un niveau où, où il n'a pas encore atteint. Là, je pense qu'en toute responsabilité, on peut discuter et voir comment ce problème peut être réglé de façon pacifique.
Bakabini Keïta, merci d'être là. Nous avons commencé l'émission sans vous. Merci d'être venu. C'est juste un premier tour de table. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'évolution de cette affaire des 49 militaires détenus au Mali?
Bon, je pense que l'évolution n'est pas surprenante. Pour moi, c'est vrai que à un moment donné, on avait l'impression que de plus en plus l'affaire était derrière nous. Avec la libération des trois femmes, pour des raisons humanitaires, disaient les autorités maliennes, et acceptaient aussi les autorités ivoiriennes et la médiation togolaise. Mais bon, on savait aussi que... Je pense que les gens aussi voient souvent trop loin dans les commentaires, quoi. C'est-à-dire, quand j'entends certains envisager même une intervention militaire par rapport à ce dossier, bon, je pense que c'est aller un peu vite en besogne. Moi, je ne vois pas quand même pour le moment l'affaire arriver à ce niveau. Je vois un marchandage. Et même si la Côte d'Ivoire reproche au Mali d'avoir demandé effectivement l'extradition de certains Maliens qui sont établis en Côte d'Ivoire et qui, parmi eux, en tout cas, certains ont été entendus et faire des déclarations allant dans le sens en quoi s'inscrit dans la déstabilisation de l'État malien. Donc, le fait qu'un État... Ça, c'est des choses qui sont connues en politique entre les États. Et que quand il y a un problème, comment dirais-je, qui oppose deux États, la Côte d'Ivoire refuse d'extrader des Maliens ou abrite des Maliens qui tentent déstabiliser le pays. Bon, si par malheur pour la Côte d'Ivoire, il se trouve qu'il y a des Ivoiriens, qu'ils soient Ivoiriens ou pas, en tout cas des gens venus au nom de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent entre les mains des Maliens, ils voient des choix effectivement que les Maliens demandent un échange. Donc si vous prenez ça comme du marchandage, ben, tant mieux. En tout cas, je vois aussi de leur côté un marchandage parce qu'en réalité, si la Côte d'Ivoire pouvait faire militairement quelque chose, on n'allait pas arriver là. À mon avis, maintenant, du point de vue quand les gens envisagent l'intervention militaire de la CEDAO, ils oublient qu'au fait, derrière aussi ce problème, il y a une guerre secrète des grandes puissances. Donc si on s'inscrit dans cette logique-là, donc évidemment, on évitera en tout cas d'envisager une intervention militaire parce que comment la CEDAO pourrait intervenir militairement au Mali, laisser les alliés du Mali en tout cas en marge de cette situation. Donc vous voyez, ça peut arriver même aux Nations Unies dans le cadre politique parce que je vois aussi que les gens dissocient souvent le droit de la politique en disant que l'affaire est judiciarisée. Non, le dossier est purement politique. C'est un problème politique et le règlement aussi est politique. Donc faire du droit comme si s'il était un îlot dans une mer, moi je crois que c'est aussi une mauvaise interprétation, une mauvaise analyse du problème. Au fait, le droit n'est pas séparé des autres entités, comment dirais-je, du pays. Donc le droit, il y a un ministre de la Justice qui est dans un gouvernement et donc les décisions qui sont prises par ce gouvernement, donc vous ne pouvez pas vouloir, vous ne pouvez pas non plus tout à fait dire que c'est comment dirais-je, le dossier est judiciarisé, et du coup, il ne peut pas avoir un règlement. Moi, je vois tout simplement, de la part de la Côte d'Ivoire, effectivement, un marchandage politique. Le fait d'amener au niveau de la CEDAO, donc, c'est mettre plus de pression de la part d'Alassane par les autres chefs d'État, parce qu'on a vu qu'il y a des médiations qui ont échoué, c'est parce qu'on arrive, ils sont en train d'envisager l'affaire, d'amener l'affaire au niveau de la CEDAO. Par exemple, il y a la médiation togolaise, mais parallèlement à ça, nous avons vu également qu'il y a le président Macky Sall lui-même qui a fait le déplacement ici à Bamako. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères du Nigeria aussi, je crois, qui est venu dans ce cadre-là. Et donc, il ne faudrait pas non plus oublier que la sanction ou la plainte déposée par le Mali, qui était aussi une plainte politique déposée par le Mali au niveau des Nations Unies, a un rapport avec ce dossier-là. Et donc, c'est pourquoi moi, en tout cas, à mon avis, je ne vois pas qu'il pourrait avoir un développement développement de manière qu'il puisse avoir une intervention militaire. S'il y a une intervention militaire, donc ça veut dire qu'il y aura forcément un affrontement entre les grandes puissances dans notre pays ou en tout cas dans l'espace du Sahel.
Et justement, le sommet des Nations Unies à New York s'ouvre aujourd'hui sur cette affaire. Écoutons ce reportage de Draman Maïga sur ce sujet.
Le décor de cette rencontre a été planté par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il a affirmé ce dimanche 18 septembre que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires et qu'il faut trouver la solution pour leur libération. « Je suis en contact avec les autorités maliennes car il faut résoudre ces problèmes », ajoute-t-il. La délégation malienne est conduite par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meïga. En plus de la session au siège de l'ONU, le chef du gouvernement échangera avec le secrétaire général des Nations Unies. Les discussions porteront sur la situation au Sahel, notamment la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali. L'affaire des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier dominera les discussions à en croire les propos d'Antonio Guterres. Rappelons que le jeudi 15 septembre, dans un communiqué, le Mali a qualifié la note du Conseil de sécurité ivoirien de manipulation. La Côte d'Ivoire avait auparavant saisi la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement afin d'obtenir la libération des 46 soldats.
N'Golo Diarra, un sommet des Nations Unies sur cette affaire pourrait apporter quoi?
Ok, juste au fait que les Nations Unies, à ce niveau, ne pourront pas apporter grand-chose dans la situation. Ce que les Nations Unies peuvent travailler dans le sens d'intensifier ce qu'on appelle le dialogue entre les deux États pour trouver une solution négociée. Mais quand les choses vont comme ça très vite, alors, il y a quand même des risques d'apporter ces différends devant des juridictions au niveau régional, voire même au niveau international. Alors, ce que la Côte d'Ivoire est en train d'utiliser certaines voies comme ça, et en guise de se préparer, bon, sur d'autres formes, seulement... Écouter, demander effectivement d'écouter les juges communautaires de la CEDEAO. Mais avant d'arriver là, on peut peut-être dire qu'au niveau multilatéral, quand même, ces agitations, cette réalité devant, je ne sais pas trop, qui est le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale, ça s'ouvre, c'est déjà commencé, alors pourront peut-être accélérer la médiation à ce niveau. Mais ce qui est important, il faut que ces deux États, les autorités de ces pays, travaillent et évitent l'enlisement, éviter des règlements juridiques ou bien d'autres règlements en la matière. Il y a M. Keïta parlait tout à l'heure dire que voilà, donc la Côte d'Ivoire peut, ou bien cherche à ce que la CEDEAO prépare une intervention. À ce niveau, c'est pour appuyer que ce n'est pas du tout possible. Il y a des difficultés à ce niveau pour que pour qu'une organisation sous-régionale ou bien d'autres entités militaires interviennent dans un État, il faut que le Conseil de sécurité donne le mandat, alors qu'il y a un certain nombre de puissances qui sont derrière Bamako qui peuvent bloquer cette situation de donner un mandat aux troupes d'intervenir au pays. Ce n'est pas possible, on n'est pas arrivé à ce niveau, mais tout est-il possible que la Côte d'Ivoire est en train d'utiliser tous les moyens possibles pour obtenir la libération de ces soldats.
Et M. Diarra a gardé la parole. Et si toutefois la situation ne se décantait pas à l'issue de cette rencontre-là, est-ce qu'il faudrait craindre d'autres sanctions sur le Mali?
Oui, là, à ce niveau, on ne peut pas écarter les sanctions. Les réunions en cours Alors, vont donner effectivement deux conclusions. Il y aura également des réactions, mais là, Bamako aussi est libre en réalité de répondre. C'est ce qui va se passer, que ce soit à l'ONU, que ce soit au niveau de l'organisation sous-régionale, même l'organisation régionale. Alors, c'est de voir la légalité de la chose. Et le Mali aussi peut se défendre. Je disais tout à l'heure, il y a des pays, des détracteurs de l'État malien qui essaie de faire des coups de gueule contre le régime actuel pour dire que c'est un gouvernement qui n'est pas issu d'élection. Mais tout est possible qu'en droit international, il y a ce qu'on appelle la présomption de licéité des autorités nationales. Ils peuvent agir au nom de cela et se défendre devant toute conclusion apportée par au niveau multilatéral. Je disais tout à l'heure que ce qui n'est pas du tout, qui est déplorable d'ailleurs en réalité, on agit en dehors du droit. Si les juges communautaires sont écoutés, on pourra éviter, voilà, vraiment, on pourra régler ce différend et éviter toutes sortes d'enlisements de situations conflictuelles à ce niveau.
Nous, Togo, la CEDEAO, comme l'a demandé Abidjan, pourrait-elle s'impliquer à l'heure actuelle?
Bon, ils vont s'impliquer, mais ce qui est important à savoir, parce que nous tenons compte aussi de tout ce qui s'est passé, il y a la jurisprudence. Si vous vous souvenez, il y a eu des jugements ici, le Mali a gagné des procès et qu'on a refusé, la CEDEAO a refusé d'appliquer. Mais la même CEDEAO aujourd'hui ne peut pas sortir pour dire qu'il y a des jugements pour qu'on applique sur le Mali. Donc, ça sera un peu difficile que les uns et les autres acceptent. Mais vous avez vu, il y a des tendances. Il y a des Maliens aujourd'hui qui se préparent à attaquer. S'il y a des décisions qui vont tomber, des Guinéens aussi qui se préparent pour attaquer. Tout le monde se prépare pour trouver la solution. Mais la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas tellement bien à dire, c'est qu'il y a eu du banditisme dès au départ sur ce dossier-là. Je vais dire banditisme politique parce que l'État ivoirien a utilisé les forces armées à des besoins privé pour ne pas dire comme ça, mais moi je me pose la question comment on peut louer son armée à des sociétés privées. C'est ce qui s'est passé. Je dirais que c'est le banditisme, c'est ce qui s'est passé. Il faut aujourd'hui trouver la solution de façon responsable et apaiser la chose pour que nous puissions aller vers des solutions amiables. Quelle que soit la situation, ils sont obligés de revenir négocier entre les deux nations. Donc, il faut travailler pour que la situation soit gérée parce que la situation peut s'aggraver si le Mali donnait donc, les interventions des uns et des autres, tout ce qui a été comme dossier, les interrogatoires donc de tout ce qui s'est passé. Si le Mali donnait ça aux Nations Unies, ça sera, la chose sera très difficile. Donc je pense réellement qu'il faut le gérer avec responsabilité encore.
Massiré Diop, en tant que journaliste, quel est aujourd'hui le rôle joué par les journalistes dans le traitement de cette affaire-là, que ce soit ici à Bamako ou avec vos confrères ivoiriens?
Bon, je crois que par rapport à cette question, en tout cas le traitement de l'information, moi je pense qu'il y a eu quand même assez de responsabilités de part et d'autre. Donc il y a eu des réunions avec le ministère de la Communication sur la question et de l'autre côté aussi, on voit que le ton quand même sur le plan médiatique, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, hein, c'est difficile, mais quand même je pense que ce qui a été privilégié, c'est surtout la responsabilité et le règlement à l'amiable de cette question. Parce que, en vrai dire, beaucoup ont des choses à perdre. Hein. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un même pays. Hein. C'est au-delà des dirigeants, au-delà des leaders. Tout ça, ça va passer. Mais les relations qui existent entre ces deux pays, ce n'est pas une tension, quel que soit son niveau, qui peut les enlever. Donc, moi, je pense que sur le plan médiatique, il n'y a pas eu assez de débordement sur cette question. Maintenant, bon, comme le grand frère l'a dit, les vidéomanes, certains activistes sur les réseaux sociaux, bon, ça, ce sont des gens qui sont difficiles à contrôler, même en temps normal. Mais sur le plan médiatique, vraiment, on doit rendre un grand hommage à la presse quand même sur la gestion de cette affaire-là.
Bagabini Keïta, Bamako parle de contrepartie pour la libération. Est-ce que cette demande est-elle conforme quand on sait que l'affaire a été judiciarisée?
Avant de répondre d'abord à cette question, je voudrais remercier N'Golo de partager avec moi qu'il est assez, en tout cas, à mon avis, léger de la part de, d'une analyse sérieuse, d'envisager dans ce dossier une intervention militaire. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il disait que peut-être la sanction, la CEDAO pourrait mobiliser des sanctions contre le Mali. Je ne sais pas comment et pourquoi donc ces sanctions-là pourront être mobilisées. Donc s'il y a ces sanctions, ça ne peut être que politique. Et en prenant aussi ces sanctions, la CEDAO court un gros risque. Et le risque, c'est quoi? C'est que déjà, il y a un fort soupçon, en tout cas des critiques assez acerbes, non seulement à l'intérieur, comment dire, au niveau des chefs d'État, mais également au niveau des opinions de chaque pays, et que la CEDAO est au service d'une puissance étrangère. Et d'ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises par les autorités maliennes, et elles ne sont pas les seules. Je crois que de plus en plus dans la sous-région, ce n'est pas seulement l'opinion, mais c'est aussi des chefs d'État qui pensent qu'il y a une manipulation de nos États et par certaines puissances étrangères, et donc ce qui est inacceptable pour ces autorités-là. Maintenant, pour revenir à votre question.
Qu'il s'agit de cette contrepartie.
Oui, est-ce que c'est conforme? Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que de part et d'autre, je crois qu'il y a une gestion aussi de l'opinion. Parce que la Côte d'Ivoire, en refusant, parce que ça fait peur aux gens, mais moi je comprends tout à fait la démarche des Ivoiriens. Aujourd'hui, Alassane, voulant aujourd'hui accepter à partir de la libération de 3 femmes, donc faire la contrepartie, donc je pense que c'est quand même un gros coup dur pour la légitimité de Ouattara. Donc Ouattara est en train aussi de gérer cette légitimité-là. Et au niveau de Bamako également, donc la réaction est tout à fait normale. Vous savez,
pour vous, c'est une question de légitimité, sinon cette contrepartie ne peut pas aller jusqu'au fond.
Non, je suis pas en train de dire que le Mali est en train de... Les autorités maliennes sont en train de plaisanter par rapport... Non, il s'agit d'une question de survie pour le Mali, de demander en tout cas la contrepartie, c'est-à-dire l'extradition des Maliens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, parce que peut-être même au-delà du fait qu'il y a le risque que ces gens... Il y a des déclarations qui ont été faites à Abidjan de la part d'un de ces Maliens qui sont établis là-bas, et donc qui se proclame président de la transition. Et donc, vous voyez, c'est quand même sérieux, cette déclaration-là. Et donc, au-delà de ça, peut-être c'est des gens aussi qui ont géré l'État à un niveau assez élevé. Le fait de les extrader au Mali, ça ne voudrait pas dire qu'on va les supprimer, mais c'est peut-être aussi les poser des questions, peut-être même demander leur soutien pour la transition afin de les aider, en tout cas, à sortir de cette situation. Maintenant, est-ce que c'est conforme le fait de demander l'extradition de ces éléments maliens qui sont établis en Côte d'Ivoire et qui sont accusés donc de déstabilisation du Mali? Bon, je ne sais pas. Oui, moi je vois aucun problème. Politiquement, moralement, on peut effectivement dire que c'est malsain, mais politiquement, moi je vois aucun problème à ce niveau. Donc oui, il y va de la survie du Mali, il y va de la survie du pouvoir de la transition, mais au-delà de la survie du pouvoir de la transition, il y va aussi de la survie de l'État malien.
À voir Sourine Ntogo, je sens que vous partagez l'avis de Bagabini Keïta. Donc, pour vous, cette contrepartie demandée par Bamako est faisable?
Mais non, ce qu'ils n'ont pas dit, le Mali n'a pas demandé forcément qu'on arrive à les renvoyer à Bamako, mais ils ont dit soit de mettre fin aussi à leurs activités politiques à partir d'Abidjan. Parce qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a un Malien qui se dit président de la République, qui invite les Maliens à se soulever contre la transition. Nous avons vu ça s'est fait à Abidjan, bien aménagé dans quelque part à Abidjan, et qui s'adressait au peuple malien. Et on a vu aussi tout récemment des journalistes maliens, des télévisions privées, qui envoient l'équipe à Abidjan pour aller interroger, pour aller faire des interviews avec des gens qui doivent répondre à l'appel de la justice, et ils vont venir diffuser donc, sur les télévisions maliennes. En ce temps, j'ai accusé nos représentants AC, je leur ai dit, ils sont où? Parce que si des choses comme ça arrivent en République du Mali, ça veut dire que c'est très grave. Et en même temps, nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire. Alassane, le moment où il est venu au pouvoir, on a vu l'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, qui a été Mali militaire, arrêté chez lui au Togo pour l'amener jusqu'à Abidjan. Ça s'est fait. On a vu, comment il s'appelle, le jeune de la FESI qui a été arrêté à Accra. On l'a amené à Abidjan. Où est le problème? Nous avons des gens qui veulent déstabiliser le Mali. Ils sont logés chez toi. Ils font des activités donc, pour s'attaquer à la souveraineté nationale. Vous ne dites absolument rien. Vous voulez qu'on se taise pour vous regarder. Mais quoi, ce machin-là, ça ne marchera pas là. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Alors donc, pour moi, c'est normal, pour les raisons d'État. On parle de l'État ici. On ne le gère pas avec l'émotion ou du sentiment, mais on le gère avec responsabilité. Il faut les envoyer où ils doivent se taire. C'est clair, hein?
Ngolo Diarra, est-ce possible aujourd'hui d'avoir cette contrepartie demandée pour le Mali?
Au fait, avant d'arriver à la question, je reviens un peu sur la déclaration des éléments, les réponses de M. Keïta. Je n'ai pas mentionné dans le débat qu'on peut faire des sanctions contre le Mali. Non, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est en train de préparer sa défense. Et là, vous voyez que la Côte d'Ivoire implique la CEDEAO et ce qui est tout à fait normal quand ça ne va pas entre deux États. L'organisation sous-régionale doit être impliquée pour trouver vraiment des solutions. Et là, la Côte d'Ivoire peut aller loin pour saisir le juge communautaire, le juge de la CEDEAO. Et là seulement, ça se passe par un jugement. Il y aura un jugement parce que la Côte d'Ivoire parle de prise d'otages. Le Mali, à son niveau, parle également de mercenaires. Alors donc il y a un différent à ce niveau. Donc c'est seulement il faut que les juges communautaires soient écoutés et pour qu'il y ait ce qu'on appelle la vérité à ce niveau. C'est de là que je parle. Et même là, et quand les décisions du juge communautaire à ce niveau de l'application, le Mali a le droit aussi de se défendre. Et chaque État peut se défendre et c'est à la suite des décisions qu'en réalité on pourra voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas dit qu'à la suite de ces éléments, à la suite de ces sommets, qu'il y aura des sanctions. Non. À ce niveau, la Côte d'Ivoire, bien, l'organisation sous-régionale ou bien l'organisation internationale ne peut pas imposer des sanctions contre le Mali à ce niveau, tant qu'en réalité, les deux parties ne sont pas écoutées devant le juge communautaire ou bien un juge au niveau international. Bon, à ce niveau, je me méfie de dire que le Mali a demandé de contrepartie, parce qu'à ce niveau, je n'ai pas vu de déclaration, en tout cas de façon officielle de la part
des autorités. De M. Ngolo Diarra, c'est une déclaration lue à la télévision nationale, au journal de 20h, qui demande ça.
Qui demande que
le gouvernement...
extrade. Bon, à contrepartie d'échange, bon... En tout cas, à mon niveau...
Ou de mettre fin à ces agissements. La contrepartie dit de mettre fin aux agissements de certains individus à Abidjan ou de les extrader dans le pays. De les extrader au Mali, ici.
Que cela soit clair. En tout cas, la question c'est que, est-ce que ça peut aboutir? Étant donné que le dossier est déjà judiciarisé, à ce niveau, je me réserve en réalité de parler un peu sur cette question. Parce qu'une fois que la décision ou bien on décide d'apporter le problème devant un juge, c'est très difficile de se prononcer sur la question. À ce moment, je veux faire une réserve à ce niveau.
Un dernier tour de table avant de clore cette émission. Je commencerai par Massiré Diop. Est-ce qu'on sent aujourd'hui la main de la médiation togolaise dans cette affaire?
Bon, c'est difficile à dire, mais en même temps aussi, on ne peut pas dire que le Togo a carrément démissionné, hein, parce que je pense que c'est grâce au Togo qu'on a obtenu la libération des trois dames, et je pense que les discussions aussi sont en train de continuer. Mais il y a un point quand même sur lequel moi je reste un peu très confus, c'est par rapport à cet échange qui a été demandé, parce que je crois que normalement, il doit y avoir quand même une... une déclaration officielle de demande d'extradition hein, qui devrait avoir lieu pour que l'opinion puisse être édifiée. Et d'autre part, j'ai vu aussi que celui qui avait fait sa déclaration pour dire qu'il était le président autoproclamé, il y a eu des mouvements hein, que, après on ne l'a plus vu même en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'ils ont fait des rebonds. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on a observé. Mais de toutes les façons, je pense que le temps est venu aujourd'hui de se mettre chacun un peu d'eau dans son jus. Hein? Voilà, parce qu'il faut, il faut apaiser la situation. Nous n'en avons pas besoin du tout. Aujourd'hui, vous savez, le Mali n'est pas aussi dans une situation très confortable, avec surtout ces sanctions qui sont toujours là, parce qu'il faut dire aussi que le Mali n'a pas encore de voix au sein de la CEDEAO et aux autres, parce que la participation est toujours suspendue. Donc ça, ils peuvent prendre des décisions en notre absence, et c'est très grave. Et est-ce que nous avons la possibilité de faire entendre notre voix? C'est ça aussi le problème. Donc moi, je pense que il faut voir ce qui lie les deux États pour pouvoir un peu arriver à la situation, arriver à une solution. Et la solution, comme les grands frères l'ont rappelé ici, elle ne peut être que politique. La justice, le fait de l'amener devant les juges communautaires et autres, tout ça, ça ne va faire qu'envenimer la situation, parce que nous avons vu la CEDEAO, par exemple, la Cour de justice de la CEDEAO qui avait demandé hein, la levée des sanctions hein, que la CEDEAO avait été prise, et cela n'a pas abouti. Donc pour vous dire tout simplement que le problème est politique. La solution aussi devrait être forcément politique.
Non, Togo, est-ce que la médiation togolaise a-t-elle permis de faire bouger les lignes dans cette affaire ?
C'est très juste, parce que vous avez remarqué que nous avons beaucoup de respect pour le président togolais. Donc il y a des rapports d'amitié et de confiance renouvelés. Vous avez remarqué tout récemment, même le déplacement de 5 de nos ministres pour aller discuter avec lui, reçu avec beaucoup d'honneur. Et je pense que nous discutons avec lui régulièrement pour échanger, pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Il a la main, il a la confiance du Mali pour faire ce travail-là. Il est notre porte de rentrée au niveau de la CEDEAO et au niveau de la communauté internationale. Ce travail est en train de se faire et nous pensons que ce n'est pas perdu. Le débat va continuer et il faut le gérer. Comme il l'a dit mon petit frère, c'est un problème politique. Il faut des solutions politiques.
Et c'est-à-dire que la diplomatie est seulement la seule solution envisagée?
Oui, bon, le jugement, même si ça se fera demain, si on va juger, c'est que le président de la République, sur la situation politique, va prendre des décisions politiques pour gracier et puis les libérer dans les jours à venir. C'est ce qui va se faire dans les jours à venir.
Bakabini Keita, la même question pour vous. La médiation est-elle la solution envisagée?
Oui, d'abord par rapport à la place du Togo. Évidemment, on sait que la médiation a commencé par le Togo, mais nous sommes obligés de reconnaître que le fait d'amener le dossier au niveau de la CEDEAO, donc au niveau du Mali, il a dans le communiqué du gouvernement, il ressort clairement que le Mali ne reconnaît que le Togo comme médiateur. Et donc, par rapport du côté malien, il n'y a aucun problème, le Togo reste le médiateur. Mais malheureusement, du côté ivoirien, le fait de vouloir amener, en tout cas, si le Togo ne sort pas de la médiation pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a un dédoublement donc, de la médiation. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire choisit de ne pas se contenter de la médiation togolaise. Bon, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Peut-être qu'elle trouve que le Togo est complaisant vis-à-vis du pouvoir de Bamako, ou peut-être qu'elle pourra gagner mieux en amenant le dossier au niveau donc, de la CEDEAO, parce que c'est ce que j'ai dit, que Alassane Ouattara cherche beaucoup de choses dans cette affaire. Il cherche notamment à gérer sa légitimité dans ce dossier-là, puisqu'il est difficile, même s'ils le veulent, que lui-même, il décide du jour au lendemain d'extrader c'est possible, hein, parce que les quelques Maliens qui sont là-bas ne valent pas mieux que des millions d'Ivoiriens, ils ne valent pas mieux que des millions de Maliens. Donc c'est bien possible, il s'agit d'une question de courage, mais je ne crois pas qu'il ait ce courage politique, en tout cas cas d'arriver à ce niveau de décision. Bon, la solution, moi je l'ai dit et je suis heureux que finalement que les autres collègues, les amis, les frères, en tout cas viennent à là. Le problème, c'est un problème politique et la solution, elle ne peut être que politique. Tout le reste là, c'est des stratégies de négociation qui sont souvent mal interprétées par les uns et les autres. J'entends même certains dire que le dossier ne vaut pas la peine pour le Mali, qu'il ne fallait pas donc tirer là-dessus, mais en oubliant que le Mali est dans la quête de la survie, notamment en tant que pouvoir section à la tête de la transition. Mais au-delà d'eux, c'est l'État malien même qui est en tout cas menacé de disparition. Et donc, à partir de la Côte d'Ivoire, section-là, parce que tu sais que quand les gens sont dans les jeux de pouvoir, ils deviennent aveugles, ils deviennent complètement fous. Et donc, ils sont capables de mettre leur pays à feu et à sang sans forcément se rendre compte. Et souvent, même en se rendant compte, tout simplement en étant égoïste, en pensant tout simplement à leur intérêt personnel. Moi, je crois que je suis d'accord avec le jeune frère Machiré qui demande à ce que vraiment qu'on apaise la situation de part et d'autre. Mais c'est assez sérieux le dossier et je pense que les Maliens ne plaisantent pas et Ouattara aussi non plus. Et chacun, en tant qu'État, essaie de défendre son... Mais je pense qu'il faut à un moment donné aussi savoir qu'il peut avoir des développements inattendus et donc vaut mieux arriver à des compromis, donc qui puisse être acceptable pour tout le monde.
Ngolo Diarra, la dernière intervention sera pour vous. Mieux vaut, je prendrai Bagabini Keïta au mot, mieux vaut prendre des solutions politiques pour terminer avec ce problème-là entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis-là également?
Évidemment, tout à fait. Je sais bien que tout va se terminer. C'est la médiation, c'est la conciliation, c'est la négociation, les bons offices. Je pense que ce qui est en train de se passer du côté de New York, du côté de Abuja, la finalité, c'est de renforcer la médiation togolaise pour trouver vraiment une solution négociée à ce problème. Et en Afrique aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment des différents inter-États. Il faut vraiment trouver une solution négociée, une solution pacifique.
Est-ce que cette solution négociée et pacifique pourra se faire au moment où le Mali est interpellé au niveau des Nations Unies de la CEDEAO par la Côte d'Ivoire?
Oui, interpellation, c'est l'objectif, c'est... Je dirais tout à fait, l'objectif c'est de renforcer la médiation, c'est de renforcer les bons offices, les résultats obtenus par l'État togolais, c'est pour les renforcer, sinon c'est pas pour autre chose. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui se retrouve dans ses difficultés pour avoir libération, alors donc elle va amener toutes sortes de médiations. On suppose que la situation n'est sans lien.
Merci beaucoup, Monsieur Ngolo Diarra, et c'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue. Merci à nos invités. Nous, Togo, du parti ICR, soutien de la transition, Bagabini Keïta, politologue, Dr Ngolo Diarra au téléphone, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Massiré Diop, journaliste, à la régie son et vidéo, et avec Gagné Kanté et Mamadi Keïta. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous, et on se dit à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Mandi.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba.